On a déjà lu les chapitres 3 et 4. Là, on va juste lire pour se refamiliariser avec ce qui va être beaucoup à l'avant-plan dans notre message. On va juste lire les versets 1 à 3 du chapitre 4. Et à travers le message, on va voir pas mal l'ensemble du chapitre 4 et on va revisiter un peu le chapitre 3. Donc, Jonas, chapitre 4. Verset 1, cela déplut fort à Jonas, la repentance et Dieu qui a pardonné Ninive. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Seigneur, on est devant un texte qui a tellement de puissantes leçons. On veut, Seigneur, apprendre de toi. Même si ce texte a une richesse qui est merveilleuse, on sait que c'est toi qui enseigne chacun, c'est toi qui convainc, c'est toi qui... Et celui ici qui est le vrai enseignant, Esprit du Dieu vivant, visite-nous. Que tu puisses vraiment chacun nous mettre seul face à toi pour ce que tu as pour chacun ici, mais aussi comme Église, comme tout, on a besoin d'entendre ta voix. On veut avancer. Avancer, Seigneur. Tu ne nous appelles pas à reculer. Tu es un Dieu qui a triomphé de la mort, du péché, de tous nos ennemis. Donc, Seigneur, on ne recule en rien. On avance par ta grâce dans la victoire que nous avons en Jésus-Christ. C'est en lui et par lui qu'on prie ces choses. Amen.
Amen.
Vous savez que le livre de Jonas, évidemment, des fois on dit « Ah, c'est un classique, on le connaît », mais ce qui est merveilleux avec la parole, c'est qu'elle est inépuisable. Même si on l'a lu, relu, entendu un message, entendu un autre, Dieu a toujours quelque chose de frais. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène les choses exactement au moment où on est rendu, là où on en a besoin. Et vous savez, Jonas, avec bon, l'histoire qu'on connaît, ça soulève un point qui... la dernière fois que j'ai prêché, j'ai voulu que je regarde un peu, c'est le 15 août, la dernière fois que j'ai prêché ici. Ça fait un bout, hein? Et j'avais soulevé un point, ça rappelez-vous, ceux qui étaient là, que des fois on peut dire, tu sais, dans les moments qu'on vit en ce moment, on entend toutes sortes de choses, écoutez pas les nouvelles trop. Écoutez les nouvelles de la grâce de Dieu, ça c'est toujours des bonnes nouvelles.
Amen.
Parce que ce monde est, je veux dire, péri, puis celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça c'est une valeur sûre. Mais là, des fois, on écoute ça, puis là, on se dit, « Seigneur, sors-moi d'ici. » Et c'est un peu, en fond, ce qui est arrivé à Jonas. « Seigneur, sors-moi d'ici. Seigneur, je veux pas faire ce que tu... Sors-moi d'ici, au secours, je veux pas faire la mission que tu m'as donnée parce que je sais ce que ça implique. Hein, » on sait que Jonas n'était pas fou. Il savait bien que sa nation était rebelle et que Dieu allait probablement utiliser Ninive comme un instrument de jugement entre ses mains pour châtier Israël. Pour ça qu'il ne voulait pas y aller. Pour ça que quand on vient de lire, je savais que tu étais un Dieu qui pardonne, qui miséricordie. C'est ça que je disais, c'est pour ça que je suis allé à Tarsis. Je ne voulais pas que ça l'arrive. Donc il y avait cette pensée, Seigneur, sors-moi d'ici. Seigneur, je démissionne. Mais le problème avec ça, c'est qu'il disait ça au lieu de dire, Seigneur, ce que je veux par-dessus tout, c'est ta présence. Il a fui loin de la présence de Dieu alors que Dieu l'appelait à lui avec cette mission. Autrement dit, Jonas veut plus être hors du danger, hors des problèmes, que dans la présence de Dieu. Petite matière à réflexion pour commencer ce matin. Et on voit ça dans l'ensemble du livre, mais je pense que les chapitres 3, puis spécialement le chapitre 4, on voit une révélation des motifs derrière ces actions, ces paroles de Jonas. Et je crois qu'on voit, c'est pour ça que le titre du message, c'est « Dieu révèle les motifs de nos œuvres ». Pourquoi? Parce que Jonas a fini par obéir, n'est-ce pas? Mais pas de bon gré. Et certainement, je dirais que c'était plutôt minimaliste comme obéissance. Tu sais, le message n'était pas 3 points puis repentez-vous, c'était dans 3 jours, Ninive est détruite. Tu sais, pour quelqu'un qui voulait plus de détails, c'est quoi tu veux dire? Non, non, il était passé puis le message. Tu sais, l'essentiel était là, mais mettons que c'était pas un prêcheur du dimanche matin comme on peut avoir ici des fois, OK? Et je vise pas personne en disant ça. Mais pourquoi il en était ainsi? Pourquoi est-ce que Jonas avait cette attitude? Pourquoi il a obéi, mais à contre-cœur? Je crois que c'est parce que sa vision, sa compréhension de Dieu, la perspective qu'il avait du Dieu vivant, était mauvaise. Et pour être plus précis, elle était incomplète. Elle était partielle. Et voici ce que je veux dire par là. Jonas ne voulait pas accepter Dieu dans tout ce qu'il est, dans sa personne entière. Jonas aimait le Dieu qui est juste et qui châtie les méchants. Mais il n'aimait pas le Dieu qui est miséricordieux et qui fait miséricorde à ceux qui se repentent et tout ça. Pourquoi? Parce que justement, c'était le problème avec les gens de Ninive. Ils savaient bien que Dieu pouvait les pardonner s'ils se repentaient, mais ils ne voulaient pas de ce Dieu-là. Ils voulaient juste la moitié qui lui plaisait. Ils voulaient le Dieu juste, mais ils ne voulaient pas le Dieu de miséricorde. Mais écoutez ce que Moïse, lui, face à Israël, qui était dans une situation où est-ce qu'il avait besoin de la miséricorde de Dieu, dans Nombre 14, voici ce qu'il a prié. « Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici, parce que ce n'était pas la première fois qu'Israël avait besoin de la grâce de Dieu comme ça. Et donc, on peut comprendre que Jonas, il a fui physiquement lorsqu'il est parti à Tarsis, mais dans les passages qu'on vient de lire, chapitre 3, chapitre 4, on voit qu'il a continué à fuir, mais pas physiquement cette fois-ci, spirituellement. Il n'est pas parti dans un bateau, il est parti dans sa propre volonté. Il ne voulait pas accepter la volonté de Dieu. Il a pris sa propre voie pour se protéger, avoir les choses à sa façon, résister à la pensée de Dieu, puis insister sur la sienne. Regardez chapitre 4, verset 5. « Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, et là, il se fit une cabane. Et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arrivait dans la ville. » C'est fait une cabane. Et c'est dans cet esprit-là qu'il a construit cette cabane. Il avait l'intention de faire ce qu'il voulait. OK, il avait obéi à Dieu, mais là, c'était assez. Là, maintenant, il s'en est dans son coin. C'est drôle que c'était une invention humaine, n'est-ce pas, une cabane. Et je vois là-dedans notre désir d'autosuffisance. OK, là, j'ai fait ta volonté, là, je m'en vais dans ma cabane, puis là, je fais ce que je veux. Demande-moi plus. Dieu, tu m'as assez demandé. Là, j'ai atteint ma limite. Mais c'est drôle que Dieu a préparé 3 choses qui mettent complètement fin à ça. Il a préparé un ricin, un ver et un vent chaud. Et ça l'a supplanté. C'est drôle comment la création de Dieu surpasse et supplante les inventions humaines. On peut avoir toutes sortes d'ingéniosités pour essayer de sauver nous-mêmes, d'avoir notre volonté. Dieu a juste à faire ça. Il envoie ce que lui vient de sa création, puis il brise tout ça. Autrement dit, Jonas prenait encore la fuite, mais cette fois-ci d'une façon différente, puis Dieu encore le poursuivait, puis brisait ses plans de fuite et de vouloir les choses à sa façon. N'est-ce pas vrai quand ça dit dans le psaume 94 que l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Quelle vanité de se faire une cabane pour se protéger alors que notre vie dépend à 100% de Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui décide ce qu'il va faire avec notre cabane, notre fausse sécurité. Cette cabane, c'était la fausse sécurité de Jonas. Et tout cela, c'est l'expression de la vision de la foi qu'il avait de Dieu. Pourquoi il se faisait une cabane? Pourquoi on se fait des cabanes, nous autres? On se fait une cabane parce que dans notre imagination, Dieu est pas assez. Dieu est pas un refuge. Fait qu'on se fait une cabane pour essayer d'aller s'y réfugier. Au lieu d'aller auprès de celui qui est notre rocher, celui qui nous garde sous son aile. Pourquoi on est comme ça? Parce que comme Jonas, on a une vue distorsionnée de Dieu. On n'accepte pas qu'il puisse nous permettre de souffrir. Voyons, Dieu, ça ne se peut pas qu'il nous fasse passer par là. On n'accepte pas que Dieu fasse ce que lui veut faire souverainement comme il l'a lui-même décidé. Demandez à Job. Il n'a pas demandé la permission à Job de faire ce qu'il voulait faire dans sa vie. Mais c'est ce qu'il y avait pour Job. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Notre réaction, c'est la fuite. Soit dans un bateau, soit dans une cabane. Parce qu'on recherche cette fausse sécurité. Comme dans le jardin d'Éden, on va se cacher loin de l'Éternel. Avec des petites feuilles qui ne cachent rien dans le fond parce que Dieu connaît tout. Donc, Dieu révèle les motifs de nos œuvres. C'est ce que j'aimerais qu'on voit. Avec quatre choses qui étaient distorsionnées dans la vie de Jonas. Dans sa vie puis dans ses pensées. D'abord, on voit que Jonas avait une vision distorsionnée. Il avait une vision distorsionnée. Jonas, dans sa compréhension des choses, les gens mauvais devaient être éradiqués de la carte. C'était pas mal simple pour lui. Les méchants, il faut qu'ils soient jugés. Bon, il passait peut-être au-dessus que lui-même, son peuple, il n'était pas plus fin. Mais il avait une vision distorsionnée. Il ne voyait pas que ces gens-là pouvaient autant être l'objet de la miséricorde de Dieu. Comme lui, d'ailleurs, il l'a été. Hein? Je vous rappelle, on a lu au chapitre 3, verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Ça, c'est la bonté de Dieu qui donnait une deuxième chance. On n'oublie pas que il avait fui, il avait fait sa volonté, puis Dieu l'a ramené pour qu'il puisse accomplir la mission à laquelle il l'appelait. Notre cher Jonas avait une vision complètement distorsionnée de la personne de Dieu, de qui Dieu est. Puis comme je l'ai souligné en introduction, c'est qu'il voulait être sélectif dans ses attributs. OK, il n'y a pas de problème avec un Dieu juste avec les ennemis d'Israël, c'est ce qu'il mérite. Mais avec nous, par contre, il faut qu'il soit miséricordieux. Je veux dire, ça, c'est un idole. Ça, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas un Dieu qu'on peut prendre à la carte, prendre ce qui nous plaît, puis laisser ce qui nous plaît pas. En fait, qu'est-ce que tout ça démontrait? Ça démontrait les motifs égocentriques de Jonas. Il était loin d'être christocentrique. Il était loin d'être porté vers la rédemption qu'il devait proclamer. Il était très égocentrique. Et comme je l'ai dit, malgré le fait que Dieu avait été patient envers lui, avait démontré de la grâce envers lui, mais notre prophète, dans son égocentrisme, avait perdu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'incarnait plus cet amour de Dieu. La vie de Christ était étouffée dans le cœur de Jonas. Et n'est-ce pas ce qui arrive à beaucoup d'entre nous? Avec notre vision distorsionnée qui nous pousse souvent à être égocentrique. Pensez-y. Quand on fait tellement de nous un cas, et de ce que nous on veut, de ce que nous on aime, notre vision est distorsionnée. On ne voit plus comme Dieu veut qu'on voit notre monde. On est dans un monde perdu. On a une mission qui nous a été donnée. Et on a des frères et sœurs qu'on est appelés à édifier. Je veux dire, ce que nous, il n'y a personne qui vit pour lui-même, ni même qui meurt pour lui-même. C'est ça la bonne vision des choses, pas l'autopréservation puis vouloir avoir les choses comme on veut. Et si on a cette propension, cette vision spirituelle, ça va nous pousser irrémédiablement vers la deuxième chose qui était distorsionnée dans la vie de notre cher Jonas. Non seulement sa vision était distorsionnée, mais ses valeurs étaient aussi distorsionnées. Regardez chapitre 4, verset 1. « Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. » Donc, lorsqu'il a appris que Dieu avait fait grâce aux Ninivites qui s'étaient repentis et que Dieu aussi s'était repenti du mal qu'il devait faire, ici, l'expression pour exprimer l'irritation, c'est une irritation extrême. C'était fort, ça bouillait en dedans lui, il était fortement irrité. Mais comparé avec le verset 6, « L'Éternel, Dieu, fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Autant qu'il y a eu une grande et extrême irritation, là, il y avait une grande et extrême joie. Il se réjouissait grandement. Il était vraiment hors de lui-même. Wow! Dieu a fait un ricin pour me protéger. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans avec des valeurs distorsionnées? Jonas donnait plus d'importance aux plantes qu'aux personnes. C'est vrai! Puis à son petit bien-être à lui, plus qu'à la destinée éternelle d'une ville entière. Ses motifs ont révélé ce à quoi il apportait de l'importance, de la valeur. Et ça montre qu'il y avait des motifs antipathiques. Non seulement il y avait des motifs égocentriques, mais il y avait des motifs antipathiques. C'est l'inverse d'avoir de l'empathie, de la compassion. Il était antipathique à ces gens. Pourquoi? Parce qu'on peut en être sûr lorsque nos valeurs sont distorsionnées, parce qu'on a des motifs égocentriques, ça va aboutir à une disposition hostile, antipathique à ceux autour de nous. N'est-ce pas l'essence de ce qu'est l'amertume? Lorsqu'on est amer, c'est ça la disposition qu'on a. Envers ceux qui ne méritent donc pas notre bonté, ils ne méritent donc pas notre pardon, ils ne méritent donc pas notre compassion. C'est ce qu'on veut essayer de se faire croire. Et quand on regarde à la croix, est-ce que nous, on méritait quelque chose de Dieu? Absolument. Et comme vous avez été pardonné en Jésus-Christ, pardonnez-vous ainsi les uns les autres. Si la mesure, c'est la croix, mes amis, on tombe pas mal humblement à se dire, ouais, peut-être que je devrais réviser les raisons que je me donne pour être amer. Et si on regarde la situation actuelle qu'on est en train de vivre, personnellement, en tant qu'Église, en tant que pays, à la lumière de ces vérités, on comprend que le monde, et malheureusement, même le monde chrétien, à cause de la cabane d'échappatoire qu'on essaie de se construire, est devenu antipathique à ceux qui ne veulent pas rentrer d'une cabane. Avez-vous vu le degré de violence interpersonnelle qui s'élève dans les relations en général? C'est assez incroyable de dire, si tu ne te conformes pas, c'est pas juste voir c'est ce que tu penses. C'est rendu, c'est de l'antipathie. Je veux dire, wow! Et je pense que c'est de l'égocentrisme. Je pense pas que c'est de la disposition de Christ qui souffrait et même est mort pour les péchés et les biens d'autrui. C'est ça la disposition de Christ. Que le peuple, nous, sur lequel son nom est invoqué, ne rentre pas dans la folie destructrice d'avoir des dispositions antipathiques les uns envers les autres. Qui, au nom de la sécurité, du conformisme ou de l'acceptation sociale, met plus d'importance que sur les personnes. Mes amis, on ne vit pas pour nous-mêmes puis pour nous autres. Puis jusqu'où ça va aller, cette idée d'essayer d'avoir la sécurité puis d'avoir le bien-être? Je veux dire, jusqu'à temps que je tue quelqu'un pour moi être bien, pensez-y, si on pense ça, on amène ça plus loin. C'est des valeurs complètement distorsionnées et ce n'est certainement pas la disposition de Christ, notre maître. Et ça devrait être totalement étranger donc à ceux qui possèdent sa vie, ses enfants. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais recherché sa propre volonté. Jamais. Il a toujours fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Ça nous amène à la troisième chose qui était distorsionnée dans la vie de Jonas. Non seulement sa vision, non seulement ses valeurs, mais sa volonté même était rendue distorsionnée. Regardez versets 9 à 11. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Et il répondit, « Je fis bien de mériter jusqu'à la mort. » Ça fait deux fois qu'il emploie cette expression, « jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as point fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Remarquez qu'il y a un contraste avec ce qu'on a vu, avec le contraste qu'on a vu, il était fort irrité puis il était fort content. Ça, c'était ses valeurs qui étaient distorsionnées, mais ça l'affectait, sa volonté qui était rendue complètement distorsionné. Autrement dit, Jonas se réjouissait de ce qui ne devait pas se réjouir, d'un ricin. Et il ne se réjouissait pas de ce qui aurait dû se réjouir, que le peuple s'était repenti. Pourquoi? Parce qu'il voulait sa volonté et non pas celle de Dieu. Il était rendu esclave à sa propre volonté distorsionnée et n'était plus voué à la volonté de Dieu. Jonas était tellement pris ou épris de sa propre volonté qu'il n'était plus en peine, il n'était plus en souci de faire la volonté de Dieu. Jonas, en effet, vivait pour son royaume, où lui règne, et où il voulait se faire un petit Dieu, rappelez-vous, sélectif, hein, un Dieu qui est juste, justice, pas qui est miséricorde. Donc, il voulait vivre pour son royaume, où est-ce qu'il voulait se faire un petit Dieu qui allait le servir, lui, ses intérêts, ses buts, sa volonté, ses désirs de confort et de sécurité. Mais tout ça passait complètement à côté de la volonté de Dieu, qui nous montre de façon tellement claire, puissante et majestueuse dans le livre de Jonas, sa volonté et son plan qui sont infiniment plus grands et meilleurs que le petit monde que notre prophète voulait se faire. Parce que vous voyez, dans le plan de Jonas, là, ça commençait avec « je ». « Me, moi ».« Je, me, moi ». C'était pas mal ça, tout son plan. Mais le Dieu qui l'avait appelé à Ninive, vous savez quoi, dans son plan, là, les païens faisaient partie, hein? En passant, dans l'Ancien Testament, on dit, ah, l'Église, c'est Dieu qui a réuni les Juifs et les païens. Savez-vous que c'était le plan aussi de Dieu, de servir d'Israël pour proclamer la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament aux païens? Puis, si vous ne me croyez pas, je vais vous dire, je vais aller voir mon ami Ésaïe, puis j'espère que vous allez l'écouter. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple pour être la lumière des nations. Ésaïe 42:6. Donc, c'était l'appel d'Israël à être la lumière des nations, la lumière de Ninive, la lumière des Philistins, la lumière de tous ces gens qui étaient autour. Et donc, c'était bien plus grand que le petit monde, le petit royaume que Jonas voulait se faire. Mais savez-vous quoi? Lorsque notre volonté est distorsionnée, si on recule un peu, on se rend compte que c'est parce qu'à quelque part, on a une vision distorsionnée des choses, puis on a des valeurs distorsionnées. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas la source de ses pensées, de cette volonté, de ces choses. Et c'est là qu'on se met dans le trouble. Et ça nous montre que non seulement Jonas avait des motifs égocentriques, il y avait des motifs antipathiques, mais on voit ici qu'il y avait des motifs réductionnistes. Son monde était trop petit. Son monde n'incluait pas la grande majesté de Dieu qui étendait sa grâce, même à les plus rebelles qui étaient autour de lui. Il y avait des motifs réductionnistes, ou on pourrait dire presque sectaires. Puis voici où tout ça devient douloureusement concret. Avez-vous pris l'habitude de venir à l'église avec des bottes à cap, des bottes à cap d'acier? Parce que des fois, on peut se faire plier ses orteils. Est-ce que le monde de ta volonté est tellement petit que ta volonté et pas ce qui réjouit Dieu? Et est-ce que tu es rendu au point que tu ne te réjouis plus de la volonté de Dieu? Est-ce que ton Dieu imaginaire que tu veux te construire est rendu si petit qu'il ne laisse pas de place à ceux qui te dérangent, qui ne sont pas comme toi tu voudrais? Est-ce que ta vision de Dieu est tellement distorsionnée que tes valeurs sont rendues qu'il refuse de le laisser dicter sa volonté pour ta vie? Mes amis, toutes ces questions-là, ça nous montre, ça dresse un portrait de quel royaume nous avons et de quel roi il règne. C'est ça la question de la volonté. Qui règne dans ton royaume? N'est-ce pas la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez que le salut, c'est pas juste un ticket pour le ciel, c'est Dieu qui nous délivre de nous-mêmes, égocentriques, antipathiques, et, je veux dire, réductionnistes comme nous sommes, Dieu nous délivre de ça pour son royaume qui est tellement meilleur, qui est tellement plus beau, qui est tellement plus constructif que le petit monde qu'on voudrait se faire. Et c'est pas parce qu'on est rendu chrétien qu'on est immunisé à ça. Il n'y a pas de vaccin contre ça. C'est pas politically correct de dire ça. C'est pas grave. Savez-vous que le royaume de Dieu et le roi de ce royaume, parce que nous on veut se placer en roi, en reine, est toujours en collision frontale avec celui de notre volonté. C'est toujours un contre l'autre. Écoutez, je vais vous le montrer parce que Paul a dit dans Galates, je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Nos désirs égocentriques, nos désirs antipathiques, c'est l'esprit de Dieu qui est supérieur, c'est lui, celui qui est conduit par l'esprit, n'est plus sous la loi. Et en passant, si je suis sous la loi, je suis en relation avec les autres, avec la loi, puis on a déjà parlé, qu'est-ce qui arrive quand je vois les autres à la lumière de la loi? Personne ne fait jamais rien de correct. Parce que la loi, c'est ce qu'elle nous dit, tu ne fais pas rien de correct. La loi, elle est bonne, elle est juste et parfaite. C'est ça le problème, ça nous montre comment nous, on n'est pas juste bien puis parfait. Fait que si moi je m'évalue à la lumière de la loi, puis que je vois pas qu'elle m'amène à Christ, ma justification, ma vie, mes amis, ça va pas bien. Puis si je vois les autres à la lumière de ça, mes relations vont vraiment tourner très, très sûres, amères, et ça va pas bien aller. Mais là où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde, si je vois que Christ est plus grand, si je vois dans mes relations que mon Dieu est plus grand que ça, ah, là, ça va changer. Puis savez-vous quoi? C'est pas ma nuit que ma volonté. Parce que dans ma petite volonté myopique, tout le monde n'est pas correct, puis il ne fit pas dans mon royaume. Mais quand Christ arrive, il défait toutes ces choses-là, puis là, sa grâce nous montre que là où est-ce qu'il y avait de la destruction puis de l'amertume, Dieu est capable de restaurer, de raviver, de mettre la vie là où il y a de la mort, de construire là où tout est détruit. C'est ça le Dieu de la Bible qui se révèle, c'est ça le salut qu'on a en Jésus-Christ, qu'on ne réduise pas ça à un simple ticket pour le ciel. C'est bien plus que ça. Ça l'inclut ça, mais c'est plus que ça. Il y a quelque chose de tellement beau là-dedans. Avec ce Dieu, on le disait tantôt, j'écoutais chanter, puis on a des gens, si on fait le tour, qui font pas mal partie de toutes, bon, pas toutes, là, mais quelques nations, peuples et tout ça, un jour, pour l'éternité, on va célébrer Dieu. Mais écoutez bien ce que ça dit dans Éphésiens à ce sujet-là, à ce Dieu qui, justement, n'est pas réductionniste, qui fait une œuvre qui est tellement plus grande que ce que nous, on peut imaginer. Ça dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous de ce que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis y étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et des prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père. Dans un même esprit. Wow! Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça m'amène au troisième point, la quatrième chose qui était distorsionnée dans la vie de Jonas, et j'ai gardé le V parce que c'est toutes des V, mes points. Il y avait des vibrations distorsionnées. Il y avait des vibrations distorsionnées. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Camille, il rit pas trop, là. J'ai de l'air fou, là.
C'est de la plus grande, hein?
Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ses émotions, sa disposition émotionnelle, Jonas, par rapport à Dieu et sa volonté, à son plan à Dieu, ne vibrait pas au même diapason. Ok, c'est le domaine des émotions ici. Ce qui faisait vibrer Jonas, c'est pas la même chose qui faisait vibrer l'esprit de Dieu et le Dieu qui l'appelait. Ok, là vous avez l'explication. Autrement dit, la réaction émotionnelle, la réaction intérieure, la disposition de Jonas était distorsionnée parce qu'il avait des motifs très volatiles. Je veux dire, il n'était pas stable. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Il était sujet au haut et au bas des émotions. Et il voulait vraiment insister pour que Dieu fitte en bon Québécois, dans son royaume, dans ce que lui voulait. Il voulait que Dieu s'ajuste à lui au lieu de faire ce que tous nous devons faire, s'ajuster à ce que Dieu fait. C'est ça la réponse de la foi. Dieu est l'initiateur. Dieu, c'est lui, quand on dit en Québécois, là, il colle les shots. Nous, on a juste à répondre. On s'arrange avec ça. Là, on est assis à l'église, là, on dit, hey, ouais, c'est vrai, on s'arrange avec ça, c'est dingue. Mais quand c'est notre tour, là, c'est moins le fun, par exemple. Ça ne dérange pas que ça soit avec les autres. Alors, ah, ce nom spirituel, accepte ce que Dieu fait.
Ouais.
Mais après ça, on est comme Jonas, puis quand c'est notre tour, ouais, les Ninivites, on aimait bien ça qu'il y ait le tour, mais quand c'est le nôtre, c'est un petit peu moins le fun. Et savez-vous quoi ce que Dieu est en train de faire avec Jonas? Il est en train de l'amener au point dans sa vie où il allait se dire, et même être convaincu dans son cœur, de se dire, il doit avoir bien plus, il doit avoir en Dieu beaucoup plus et beaucoup merveilleux de ce que moi je me suis imaginé de Dieu. Dieu voulait se révéler à lui comme un Dieu grand, infini et bien au-delà de ce qu'il s'imaginait dans sa petite tête, dans son petit cœur. En fait, c'est comme ça que Dieu le poussait à être satisfait de ce que lui est vraiment et complètement. À être satisfait de ça. Parce qu'il y a de la misère à être... C'est un patriote, là, Jonas. Non, parce que c'est vrai, là, Ninive a jugé le royaume du Nord. C'est arrivé. Puis ça y tentait pas. Puis écoutez bien. Comme Jonas, on rejette souvent le plan, l'ordre de Dieu, lorsqu'on rejette la communion de ses souffrances. Savez-vous qu'on est appelé à ça? C'est pas optionnel. Si on est un enfant de Dieu, on est appelé à la communion de ses souffrances. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un trésor de grâce.
Amen.
On a parlé de ça mercredi. C'est lorsqu'on est dans la fournaise ardente qu'on a un rendez-vous avec le Fils de Dieu qui est là, puis qui nous rejoint exactement où ce que... Il nous a amenés. C'est lui qui les a amenés là, puis il les a rencontrés là. C'est un rendez-vous divin. Mais nous, on croit aux mensonges. Aux mensonges que si on ne se sent pas bien, si on n'est pas en sécurité, si on n'a pas les choses comme on veut, que tout est parfait, ah là, ça ne va pas bien. Savez-vous que c'est une illusion? C'est un mensonge, c'est faux, parce que la seule vraie sécurité, la seule vraie paix, la seule vraie joie, le vrai contentement, c'est lorsqu'on est au centre de sa volonté, puis qu'on est à ce rendez-vous de la grâce de Dieu. C'est là la seule place que vraiment on est content. Puis c'est pas grave s'il y a des flammes partout autour. La paix est là, la joie est là, la sécurité est vraiment là. Pensez-y. Est-ce que ça l'a valu la peine? Pour ceux qui savent de quoi je parle, mais janvier, février de cette année, on avait différentes vibrations. Mettons qu'émotionnellement, quand on est venu ici, dans le mois de janvier ou février, je ne me rappelle plus les dates exactes. Il y a un petit bout qu'on était un peu nerveux, n'est-ce pas? Puis moi, dans mes émotions, là, ça me disait pas mal, là, c'est quoi que tu es en train de faire là? Puis on avait tous pas mal les genoux un peu mollasses, n'est-ce pas? Ça a-tu valu la peine?
Amen.
Est-ce qu'on en regrette? Puis c'était pas un gros pas de la foi, mais est-ce que Dieu n'a pas été fidèle de nous rencontrer exactement là? Hein, c'est une petite fournaise, là. C'est un briquet ardent, tu sais. Mais pareil, Dieu a rémunéré parce qu'on le cherchait, puis c'était... Je veux dire, pendant qu'on se pète les bretelles, puis on est bon des héros de la foi, puis on y va à côté de Shadrach, Meshach et Abednego. Non, mais c'est juste pour dire, wow, Dieu est fidèle.
Amen.
Et même si on n'a pas écouté nos vibrations, nos émotions distorsionnées, ça n'en valait la peine.
Amen.
Voyez-vous, c'est ça l'appel du livre de Jonas. L'appel du livre de Jonas, c'est tellement mieux, tellement plus merveilleux que ce qu'on peut s'imaginer. Dieu avait des choses qu'il était en train de faire. Puis il voulait que Jonas en fasse partie, qu'il le voit, qu'il découvre que c'est pas mauvais que Dieu. Parce qu'il dit, ah, c'est ça, je voulais prévenir. Non, fallait pas le prévenir que Dieu est comme il est, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui se repent du mal. Dieu voulait montrer que c'était bon que ça soit comme ça. Puis juste comme parenthèse de même, Dieu a utilisé Ninive pour être un instrument de châtiment pour son peuple. Pourquoi il avait si peur? Parce que si Ninive se repentait, peut-être qu'il aurait même plus voulu se battre contre Israël, parce que si c'était devenu leur Dieu, bon, parce que la suite de l'histoire montre que malheureusement, Ninive, après, je pense que les commentateurs disent à peu près 70 ans, malheureusement, sont retournés à leur mauvaise voie une fois que la génération est passée. Mais est-ce que ça se peut que Dieu aurait pu faire justement que... Bon, je sais pas, là, c'est de l'imagination sanctifiée, mais autrement dit, dans le plan de Dieu, on n'a pas à s'en faire d'essayer de tout comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, on a juste à y faire confiance. Ce Dieu qui est à la fois, oui, juste et miséricordieux, on le prend tel qu'il est, et c'est ça qui suffit. Et ça surpasse toute cette folie destructrice de vouloir les choses à notre façon, dans notre égocentrisme, d'être antipathique à ce qui n'est pas selon ce que nous on voudrait, d'être réductionniste, sectaire, d'avoir un petit monde où est-ce qu'on veut faire fitter un petit Dieu et d'être si volatile. Dieu se révèle aux prophètes pour briser tout ça. Et c'est le même Dieu qui se révèle à nous ce matin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en réponse à ce que Dieu nous révèle dans son livre extraordinaire de Jonas? Puis en passant, le livre de Jonas, il y a quelque chose que j'aime là-dedans. On voit la grâce de Dieu. C'est un livre de l'Ancien Testament. Avez-vous remarqué que les païens sont tous dépeints positivement? T'sais, les gens qui sont dans le bateau, c'était des païens, puis ils prient le Dieu, puis ça. Puis finalement, c'est eux qui font ce qui est bien. Le pauvre prophète, je veux dire, c'est pas un livre flatteur pour Israël, la nation qui était là pour être la lumière des nations. En fait, c'est l'inverse. Puis les païens, tu sais, la ville de Ninive se repent, mais tous les matelots qui étaient des païens, ils ont bien agi. On dit, on veut pas avoir du sang innocent sur nos mains. Puis, savez-vous qu'il y a un message là-dedans? C'est Dieu qui montrait qu'il est le Dieu de toute la terre, que les païens étaient inclus dans son plan. Pas qu'ils rejetaient Israël, puis c'est pas pour essayer, mais c'était pour montrer, il y avait une leçon là-dedans sur... En fait, c'est comme, c'est une prophétie par rapport à toute cette époque de l'Église que nous vivons et que Jésus-Christ a accompli. Mais ce sur quoi je veux terminer ce matin, c'est... OK, si Dieu nous révèle autant de choses merveilleuses sur son plan, sur qui il est... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va laisser tomber ça dans la mer de l'oubli ce matin? Ou est-ce que je vais laisser cette révélation de Dieu impacter ma vie? Est-ce que je vais ajouter confiance à ce que Dieu me révèle sur lui ce matin? Que Dieu est digne de toute ma confiance, puis que moi, si je voulais même avoir les choses à ma façon, puis tout ça, c'est complètement insensé. Donc, voici mon appel ce matin, c'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas encore racheté, je n'ai pas dit si vous avez été baptisé, si vous avez prié une prière comme vous étiez supposé de prier, si vous avez été racheté par le sang de Jésus, si vous n'êtes pas né d'en haut, né de nouveau par l'Esprit de Dieu, est-ce que vous allez faire confiance à Christ pour le salut de votre âme? Aujourd'hui même, pour restaurer votre vie brisée, dont lui seul est capable de réchapper. Et si par la grâce de Dieu, vous étiez un de ses enfants, par le sang de Jésus, est-ce que vous allez le laisser bâtir votre vie sur le roc infaillible de Jésus-Christ, de la parole de Dieu? Dans les deux cas, mes amis, on a besoin de quitter notre royaume, où on veut se faire un petit Dieu de notre imagination, et où est-ce que nous on règne, et Dieu est là pour nous aider, et laisser le vrai Dieu régner. Être sauvé, c'est laisser le vrai Dieu régner dans notre vie. Puis un enfant de Dieu, c'est à ça qu'on est appelé. À ce que lui règne. Parce qu'il est bienveillant. Il est vrai. Sa volonté est bienveillante, restaurante, transformante. Qu'on l'invoque ensemble. Je vous laisse avec un verset avant de terminer en prière. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Seigneur, merci que tu es ce Dieu si fidèle, vrai, bon. On vient à toi, Seigneur, tel que nous sommes, comme des Jonas, qui ont de la misère à accepter tout ce que tu es. En ce moment, c'est dur d'accepter que tu permets tout le mal, puis l'injustice, le mensonge qu'on voit autour de nous. Moi, j'ai de la misère. J'aime pas nos politiciens. J'ai de la misère à prier pour eux autres. Mais Seigneur, c'est notre appel.
Amen.
Tu nous as placés ici pour un temps tel que celui-ci. Seigneur, je te confesse que j'ai de la misère à accepter ta volonté dans ce qui se passe en ce moment dans notre société. Mais je me réjouis de ce que tu es, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, non seulement envers nous, mais envers ces gens justement pour lesquels on a de la misère à prier. Tu es disposé envers eux, tu peux les visiter, Seigneur. Et c'est notre prière que tu fasses des choses extraordinaires, que tu sauves, que tu restaures, Seigneur. C'est toi seul qui es le seul espoir dans tout ça. On te remercie que tu l'as voulu ainsi. Notre espoir n'est qu'en toi et toi seul. Seigneur, bénis ce temps de réponse par ton peuple à ta parole qui a été annoncée ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen.